Vendredi ont été remis au palais Tchernin à Prague, siège du ministère tchèque des Affaires étrangères, les prix Gracias Hagit. Dans cette nouvelle émission culturelle, nous retrouvons l'un de ses lauréats, Jaroslav Havelka, président de la plus ancienne association de Tchèques en Suisse, la Beseda Slovan, basée à Genève, et également vice-président de l'Union des associations des Tchèques et Slovaques en Suisse. Au micro d'Anna Kubišta, il est revenu sur son émigration après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie et sur sa patrie d'adoption.
Culture sans frontières.
Jaroslav Havelka, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous vivez depuis 1970 à Genève, en Suisse. À Prague, vous recevez le prix Gracias Hagit, qui est remis chaque année depuis 20 ans par le ministère tchèque des Affaires étrangères aux personnalités qui œuvrent à diffuser une image positive de la République tchèque à l'étranger. Et alors, première question un peu personnelle, quel effet cela vous fait-il à chaque fois que vous revenez dans votre pays d'origine, d'où vous êtes parti quand même il y a très longtemps et dans lequel vous revenez, je pense, souvent? Quels sont un peu vos sentiments?
Mes sentiments sont très souvent contrastés. J'ai à la fois la sensation de revenir chez moi, dans ma patrie. Je retrouve mes repères culturels. Même si ce n'est pas de loin le même pays que celui que j'ai quitté en 1970. Le niveau de progrès et de développement pendant la nouvelle orientation politique du pays est remarquable. Je me sens parfois étranger par beaucoup de choses. C'est sans doute mon côté suisse qui a grandi et pris une certaine place dans mon identité.
Alors, rappelez-nous un petit peu dans quelles conditions vous avez émigré en Suisse à l'époque.
Oui, ma décision de quitter la Tchécoslovaquie sans savoir comment ni où aller a été prise dès la première nuit de l'occupation de notre pays le 21 août 1968.
Il y a 50 ans, donc.
Il y a 50 ans, comme ça passe vite. Ma compagne, à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, était également déterminée à partir. Notre plan initial pour émigrer avait été de participer à un voyage organisé pour supporter l'équipe de football tchécoslovaque lors d'un match à Marseille contre la Hongrie en décembre 1968. Cela n'a malheureusement pas fonctionné, mais nous avons continué à chercher de nouvelles possibilités. Finalement, en 1970, après une suite de péripéties, nous nous sommes retrouvés à Genève sans connaissance de langue de pays.
Comment se sont passées vos premières années en Suisse? J'imagine, comme vous le dites, vous ne connaissiez pas la langue, c'était un nouveau pays, oui. C'était presque une autre civilisation puisque vous étiez passé de l'Est à l'Ouest.
Tout à fait, oui. C'était pour nous très excitant, de temps en temps fatigant. Nous avons rencontré quelques Tchèques déjà établis à Genève, dont, avec leur aide, nous avons décidé de demander l'asile politique immédiatement après l'entrée en Suisse. Les agents de police m'ont demandé pourquoi je quitte mon pays natal, la Tchécoslovaquie. J'ai spontanément répondu que je ne quittais pas la Tchécoslovaquie, mais l'Union soviétique. Ça a été la dernière question et réponse politiquement orientée que j'ai échangée avec les autorités suisses. Ils m'ont donné des adresses où je pourrais trouver du travail en parlant quelques mots d'allemand, comme c'était mon cas. À ma grande surprise, c'était des bureaux de conception de machines utiles. suite à mon deuxième entretien dans l'usine de machines d'électro-érosion, j'ai été engagé par un jeune ingénieur allemand qui m'a dit qu'il ne va pas me tester en connaissance en mécanique, que le niveau technique des Tchécoslovaques est connu. Dès le moment où j'ai pu trouver du travail qui est dans mon domaine, cela a rapidement été un bonheur pour nous de vivre dans ce pays très civilisé qui nous a rapidement admis parmi les siens. Nous nous sommes donc mariés à Genève en 1971. Nous avons vu et senti que la population nous a positivement acceptés. L'économie était dans une conjoncture favorable.
Comment se sont passées les toutes premières années, j'imagine, vous commenciez une toute nouvelle vie en fait, hein. Vous aviez eu votre vie en Tchécoslovaquie. Quand on arrive comme ça avec finalement rien dans un nouveau pays, on recommence à zéro, j'imagine.
Oui, effectivement. En commençant la deuxième partie de ma vie dans ce nouveau pays, dans les nouvelles langues et une nouvelle culture, je me suis senti motivé par les défis que cela nous a apportés. Après le travail, je suivais des cours de langue. J'ai rapidement réalisé qu'en commençant d'apprendre la nouvelle langue à l'âge de 33 ans et après le travail, je ne pourrais jamais atteindre le niveau de mes collègues francophones. Pour compenser cette faiblesse permanente, j'ai décidé de partir 3 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais, en cumulant des années de vacances que je n'avais pas prises. Mon nouveau patron était contre cette idée, mais la chef de bureau de personnel m'a félicité pour cette décision et elle m'a offert un contrat de travail suite à mon retour. À mon retour d'Angleterre en décembre 1973, notre fils Marc est né et notre vie a pris un nouvel élan familial, mais aussi professionnel. Une compagnie américaine, ayant sa maison mère en Europe, à Genève, m'a engagé en 1974. Ce changement m'a amené à voyager dans de nombreux pays du monde. Après la perestroïka, j'étais souvent en Russie pour des projets liés aux clients des machines Caterpillar. Ma femme a aussi pu conduire sa carrière professionnelle avec succès.
La Suisse a été un pays d'émigration très important pour les Tchèques, notamment après 1968. Pourquoi les conditions d'obtention du statut de réfugié étaient-elles meilleures que dans d'autres pays ?
Chère madame, je ne connais pas les conditions d'obtention de statut de réfugié dans les autres pays dans cette époque. Mais il me semble que les conditions d'obtention du statut de réfugié en Suisse étaient globalement bien différentes et que la Suisse a été plus attractive pour plusieurs raisons. C'est probablement aussi dû à la situation économique de l'époque qui était très favorable. Cependant, il faut dire que la Suisse a une tradition de terre d'asile tout au long de son histoire. Le nombre de demandeurs d'asile tchécoslovaques en Suisse était également élevé car un certain nombre de Tchèques postés à l'étranger avant l'occupation ont choisi de ne pas retourner dans le pays suite à l'entrée des chars en 1968.
Alors justement, la Suisse, c'est un pays où le protestantisme est la religion la plus importante. Vous disiez justement que la Suisse a une tradition d'accueil, en tout cas d'être une terre d'asile. Est-ce que justement le fait que le protestantisme soit cette religion principale de la Suisse a un lien avec cet accueil et est-ce que cette tradition perdure aujourd'hui ?
Selon mes observations, je ne pense pas que la religion en Suisse soit la base de la politique généreuse suisse dans le domaine d'asile. Mais il est évident que cela a pu jouer un rôle. En Suisse, le catholicisme reste le plus répandu. Il est vrai qu'étroitement suivi par le protestantisme, selon les recensements fédéraux en 2010. La politique d'asile appliquée en Suisse me semble être basée sur les considérations humanitaires principales et sur le pragmatisme de la population dont l'État applique la volonté.
Vous voyez, j'étais persuadée que le protestantisme était la première religion, je me suis trompée.
C'est juste la deuxième.
Et alors, je m'étais posé la question quand même, le passé hussite, qui est quand même lointain, certes, mais qui est important dans l'histoire tchèque, est-ce que ça conférait peut-être une affinité particulière avec la Suisse ou pas du tout pour les Tchèques?
C'est une longue question qui mériterait une discussion en soi. Dans l'histoire qui lie les deux pays, Il y a eu des échanges et de la coopération ponctuelle dans le domaine religieux. Je pense que dans certains domaines, le passé réformiste tchèque rejoint une certaine façon de penser suisse. Il est difficile à dire pour moi si elle est liée à l'histoire protestante de la Suisse. Un des sujets d'activité de PC de la Slovénie était de faire savoir cette partie d'histoire hussite européenne qui, dans certains domaines, est directement liée à l'histoire suisse et notamment genevoise, qui est considérée comme la capitale mondiale du protestantisme calviniste. Le Musée international de la Réformation à Genève a accepté parmi ses objets d'exposition permanente le fac-similé du parchemin de la lettre de doléance des nobles tchèques et moraves écrit en 1415. Bessela Slovan a organisé cette action et les autorités de la République tchèque et de la République de Genève ont participé à cet événement en mai 2011.
Pour ces activités que vous menez en Suisse dans le cadre justement de la Beseda Slovane, vous recevez le prix Gratias Agit ce mois de juin à Prague, hein, dont j'en parlais en début de cet entretien, qui est remis par le ministère tchèque des Affaires étrangères. Que représente pour vous ce prix Gratias Agit?
Évidemment, madame, je suis très fier de cela. Je me sens très honoré par cette attribution. Et cela me pousse d'autant plus à en être digne dans le futur. Le fait que mon nom soit mentionné parmi toutes les personnalités qui ont déjà reçu ces prix par le passé m'oblige à accepter ce prix avec la fierté.
Merci beaucoup.